Je dois dire que j'ai beaucoup hésité pour venir alors qu'il y a la guerre en Israël. Et finalement, je me suis rangé à l'avis de mon ancien mentor en biologie, qui était Aaron Katzir, Zichrono Livracha, qui, à l'occasion d'une des guerres d'Israël, alors que lui était déjà trop vieux pour être mobilisé, m'avait dit que finalement, la meilleure façon de passer cette période, c'était de continuer à travailler. Voilà. Alors donc, c'est ce que finalement j'ai décidé de faire. Bon, alors, une petite introduction pas très agréable qui concerne les traductions, les textes qui vous ont été distribués. Et en particulier, surtout, les traductions françaises des parties du Talmud qui sont, je ne sais pas comment les qualifier, mais c'est une espèce de quelque chose qu'on peut appeler comme un catéchisme moralisateur, un peu une ce qu'on appelle Torah de Katnout, c'est-à-dire la Torah de l'enfance. Alors donc, et comme il se trouve que ce dont je vais vous parler a à voir avec ce problème des traductions, alors évidemment, c'est bien malvenu, mais Et on comprend mieux peut-être pourquoi, à cause de ça, il aurait peut-être mieux fallu que ne pas écrire la Torah orale, pour éviter les traductions. Mais apparemment, ça n'était pas possible. Alors, je vais essayer de vous parler de l'évolution de la Torah dite écrite, donc Torah de Shebirtav, en Torah orale, Torah Shebaalpé, telle qu'elle a été écrite par la suite, c'est-à-dire, comme vous savez, le Talmud, le Midrash, la Kabbale et les commentaires rabbiniques. Alors cette évolution est un phénomène politique dans la mesure où elle concerne la survie du peuple juif. Alors, vous avez eu un exposé remarquable de notre ami Dan Arbib sur le traité théologico-politique de Spinoza. Et vous savez que pour Spinoza, dans ce traité, le judaïsme aurait dû disparaître avec la destruction du Temple de Jérusalem et la perte de souveraineté nationale qui l'a accompagnée, avec aussi la fin du culte sacrificiel autour duquel la Torah de Moïse avait été organisée pendant toute cette période. Et à ne s'en tenir qu'au texte biblique, on doit reconnaître que Spinoza n'avait pas tort. La Torah écrite, elle-même était organisée autour de la survie du peuple juif, mais du peuple juif sur sa terre, et avec sa souveraineté autour, précisément, de l'organisation sociale et de la politique de l'État des différents royaumes d'Israël qui avaient précédé. Mais justement, la survie du peuple juif en exil, a dépendu de l'acte révolutionnaire de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui quitte Jérusalem assiégé, et de l'œuvre accomplie avec ses élèves à Yavné. Et une œuvre qu'on peut qualifier, de géniale, parce que c'est un véritable tour de force qui a réussi à fonder une nouvelle Torah, radicalement différente de la précédente, avec un nouveau culte, tout en la rattachant quand même, d'une certaine façon, à la Torah écrite. Et cela rappelle, le passage chez les anciens Grecs de la mythologie à la philosophie, qui s'est produit d'ailleurs à la même époque. Il y a un épisode que je raconte dans un de mes livres entre Rabbi Eliezer Agadol et Plutarque. Mais ce passage grec de la mythologie à la philosophie, n'a pas aussi bien réussi que ce qu'ont réussi les pharisiens. Alors, je vais essayer de vous présenter quelques exemples où cette différence radicale de la Torah orale avec la Torah écrite apparaît de façon assez évidente. Alors la Torah écrite, avec sa partie fondatrice, la Torah de Moïse, elle est devenue, un objet de culte sacré. Elle est copiée minutieusement est transmise sur des rouleaux de parchemin. Elle est lue de façon rituelle, mais elle n'est pas un objet d'étude directe. Elle doit passer par la Torah orale. Alors, je vais... Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai deux petites histoires à vous raconter, qui sont d'ailleurs là, bon, en hébreu, donc je vous conseille de ne pas trop regarder les traductions. L'une est le midrash connu dans le Talmud, dans le Makot, qui montre Moïse descendu du ciel et qui assiste à un cours de Rabbi Akiba, et il s'installe au dernier rang des étudiants, et là il ne comprend rien du tout. Alors évidemment, il ne se sent pas très bien. Et puis les étudiants demandent à Rabbi Akiba, mais enfin d'où est-ce que tu sors tout ce que tu nous racontes? Et Rabbi Akiba lui dit, mais c'est Alakha le Moshe Mitsinaï. Donc ça, c'est une Alakha qui a reçu du Sinaï. Et là, nous dit le texte, eh bien, Moïse mityachev, il est rassuré. Et Rashi accentue le paradoxe un peu plus en commentant ce mityachev, et il dit que Moïse est rassuré par le fait que cet enseignement est donné en son nom, bien que lui ne l'ait pas encore reçu. Bon. Alors, une remarque d'ailleurs à propos de cette Torah de Moïse. Maintenant, une autre petite histoire, si on peut dire, mais qui est plus qu'une histoire, c'est un commentaire du Maharal de Prague sur le Pirkei Avot. Alors, ce qui commence, « Moshe kibel Torah Misinaï, Moïse a reçu la Torah du Sinaï, il a transmise à Josué, etc. » Et là, on pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il est dit Moshe Kibel mi Sinaï? Pourquoi est-ce qu'on dit que Moïse a reçu la Torah du Sinaï et non pas au Sinaï? Et encore pire, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que Moshe a reçu la Torah de HaKadosh Baruch Hu et qu'on dit que Moshe a reçu la Torah du Sinaï? Bon. Et là, eh bien, le Maharal de Prague explique ça très simplement en disant que eh bien, Moïse n'a pu recevoir que la Torah qu'il pouvait recevoir. Parce que, en fait, la Torah est infinie, on dit qu'elle précède la création du monde et qu'elle est donnée à être dévoilée de différentes façons, dont, entre autres, la Torah de Moshe. Alors pourquoi la Torah de Moshe? Eh bien, parce que, encore une fois, donc la Torah de Moshe, eh bien que Moshe ait été le plus grand des prophètes, mais il, malgré tout, c'était un homme fini et dans un environnement fini aussi, ça veut dire dans des circonstances particulières. Et donc la Torah de Moshe est limitée en quelque sorte par la personnalité elle-même de Moshe, les circonstances dans lesquelles tout le phénomène s'est produit. Alors dans ce cas, et quel rapport avec la Torah infinie? Alors le rapport, eh bien, c'est que c'est une porte ouverte qui permet d'entrer plus ou moins, de façon toujours finie, mais avec des renouvellements possibles, à partir de cette Torah de Moshe. Et pourquoi à partir de cette Torah de Moshe? Autrement dit, quelle est la supériorité en quelque sorte de la Torah de Moshe sur la Torah de n'importe qui d'autre, puisque de toutes les façons c'est fini et déterminé par des circonstances, etc. Ah ben parce que justement, là il y a eu une rencontre entre, dit le Maharal, Isha Elohim et Har Elohim. Une rencontre entre un homme d'Elohim et une montagne d'Elohim. Voilà, alors... En revenant d'ailleurs à l'histoire précédente de Moshe et de Rabbi Akiba, eh bien, il faut souligner que, comme c'est dans le texte d'ailleurs, ça se passe à propos des couronnes qui sont sur la Torah écrite, justement, c'est-à-dire dans les rouleaux de la Torah, et des petites couronnes qui sont marquées sur les lettres. Ces petites couronnes, eh bien, on dit que ben, quand Moshe est monté au ciel, alors il a vu que... L'auteur inscrivait des petites couronnes sur les lettres. Il dit, mais à quoi servent toutes ces petites couronnes? Et c'est là où il a reçu la réponse, ben, des générations plus tard, arrivera un homme, c'est Rabbi Akiba, qui sera capable de faire des montagnes et des montagnes de halakhot sur ces petites couronnes. Et les petites couronnes en elles-mêmes, évidemment, ne disent rien. Mais elles suscitent tout simplement des pirouchim. Alors, bon, donc maintenant, on va commencer par ces différents exemples. Et le premier, c'est une histoire assez curieuse qui met en scène Rav Safra de Babylone et Rabbi Abaou qui dirigeait au IIIe siècle une académie talmudique en terre d'Israël. Et Rav Safra était apparemment en visite en Israël, et Rabbi Abaou le présente à tout le monde comme un grand homme, un très grand homme. Et en particulier, il le présente à des minimes. Alors, les minimes, c'est un euphémisme pour désigner les chrétiens, quoi. Et c'était effectivement sous l'occupation romaine, et à peu près au IIIe siècle. Et il le présente, donc il présente Rav Safra comme un très grand homme. Alors les minimes sont impressionnés, et du coup, ils profitent, enfin ils utilisent leur bonne relation avec les Romains pour dispenser Rav Safra d'impôts qu'il était censé payer. Et ils le dispensent d'une grande somme, apparemment. Mais après, ils vont voir Rav Safra pour utiliser donc ses grandes capacités, et il lui pose une question. Il lui pose une question sur un verset. Et voilà que Rav Safra ne sait pas répondre. Il ne peut pas leur expliquer le sens de ce verset. Alors ils sont furieux, et à ce moment-là, ils se mettent à le persécuter. Alors ils se moquent de lui, ils lui font des misères. Et Rabbi Abaou apprend ça, et il va le voir, et enfin il va voir les minimes en question, il dit « Pourquoi est-ce que vous le traitez comme ça ?» Alors les minimes disent « Mais parce que tu nous as dit que c'était un grand homme, mais voilà qu'on lui a posé une question, il ne sait pas nous répondre. » Alors Rabbi Abaou leur dit « Mais attendez, je ne vous ai pas dit que c'était un grand homme dans la Torah, je vous ai dit que c'était un grand homme dans la Mishnah. » Autrement dit, dans la Torah orale. Ah bon ? Alors à ce moment-là, les minimes posent la même question sur le verset à Rabbi Abaou, qui leur donne la réponse, et tout le monde est content. Mais à ce moment-là, quand même, ils sont intrigués, et ils disent « Mais enfin, quelle est la différence entre lui et toi ? Alors, pourquoi est-ce que toi, tu sais nous répondre, et lui ne savait pas ?» Alors la réponse de Rabbi Abaou dit « Mais c'est très simple, parce que moi, je vis au milieu de vous, et j'ai à discuter tout le temps avec vous. » Donc c'est pour ça qu'il faut que je connaisse la Torah écrite. Mais lui, à Babylone, il n'en a pas besoin. Voilà. Alors, en fait, et là maintenant, c'est un petit peu sur ces questions que je vais me concentrer, c'est à propos de l'évolution de ce qu'on appelle les noms de Dieu, qu'on trouve un domaine dans lequel, justement, cette évolution de la Torah écrite à la Torah orale est probablement la plus prononcée, et en tout cas, à mon avis, aussi parmi les plus intéressantes. Alors, il faut commencer donc par le nom Elohim, qui est régulièrement traduit par Dieu, avec un D majuscule. Et ceci à partir de la traduction de la Septante en grec, qui a traduit Elohim par Théos, et en latin Deus. Alors d'abord, l'hébreu n'a pas de majuscule. En outre, Elohim et Ha-Elohim sont des noms pluriels qui sont en effet conjugués souvent, mais pas toujours, au singulier. Et c'est ce que fait remarquer Rashi en deux occasions. De façon général, et l'hébreu biblique conserve l'ambiguïté du pluriel, et suivant les circonstances, on peut garder ce pluriel ou au contraire le singulariser, si on peut dire. Bon, alors on peut donner des références, si vous voulez, Rashi à partir du nom Elohim dans la Genèse 20-13, et puis après dans le nom à propos du nom Ha-Elohim avec l'article qui pose une question, parce qu'on voit mal comment on peut traduire Ha-Elohim autrement que par les Elohim. Bon. Et donc Rashi donne de nombreux exemples où les termes de souveraineté utilisent le nom pluriel conjugué aussi au pluriel. Bon, alors, vous pouvez trouver ces exemples, c'est dans Genèse 20-13 et l'autre est dans Genèse 35-7. Et Rashi observe à ce sujet que c'est le cas d'aucun des autres noms divins. Or, on rencontre souvent aussi le nom El, et avec l'article aussi, Ha-El, et le pluriel Ha-Elim. Alors, il est reconnu aujourd'hui que ce nom El est un nom commun de certaines divinités antiques proche-orientales, et il est parfois associé à Elion, El d'en haut, comme par exemple dans la Genèse à propos d'un roi mystérieux, Melchizedek, roi de Shalem, Cohen de El Elion, donc prêtre de ce El Elion, et qui était un allié d'Abraham. Un autre exemple assez frappant est celui du texte d'un seul psaume qui montre à quel point la polysémie de Elohim peut être flagrante, condensée dans un texte court, à savoir le psaume 82, où on retrouve en outre l'autre nom d'ailleurs dont je viens de parler, El, qui est générique de divinité et indifféremment traduit aussi par Dieu ou divin. Alors je vous lis une traduction de ce psaume qui fait apparaître justement trois utilisations différentes du même mot Elohim. Alors en français, donc voilà ce que ça donne, chant pour Asaph, Elohim debout dans l'assemblée divine, assemblée divine en hébreu là c'est Adat El, c'est-à-dire l'assemblée de El, et il juge au milieu des Elohim, donc au milieu alors on va comprendre qui sont ces Elohim. En fait, ce sont des juges, mais c'est aussi des Elohim. Et là, il les juge. Jusqu'à quand jugerez-vous uniquement et aurez-vous des égards pour les méchants? Jugez en faveur du faible et de l'orphelin, rendez justice aux malheureux et aux pauvres, délivrez le faible et indigent de la main des méchants, sauvez-les. C'est les Elohim, ils les jugent. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils s'avancent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des Elohim. Et vous êtes tous des fils du El Elyon. Mais comme l'homme, vous mourrez. Et comme l'un des princes, vous tomberez. Alors ça, il s'agit maintenant des Elohim. Lève-toi, Elohim, juge... Alors là, maintenant, c'est un autre. Donc, lève-toi, Elohim, juge la terre. Car c'est toi qui es maître de toutes les nations. Alors, voilà que dans ce texte, le même nom Elohim désigne tantôt le juge suprême, tantôt les juges qu'il juge lui-même. Et on trouve ici l'idée des actions des Elohim qui elles-mêmes sont jugées, et d'autant plus frappante que le juge suprême aussi est nommé Elohim. Donc vous voyez ce que donne la traduction quand toute cette polysémie du même mot évidemment disparaît. Mais en fait, c'est à propos du tétragramme, donc de Yod-Heh-Vav-Heh, donc le nom de quatre lettres, qu'on peut observer une évolution extraordinaire dans le passage de la Torah écrite à la Torah orale. Alors ça commence, c'est une longue histoire qui commence déjà dans l'Exode par un verset curieux où on nous dit que Elohim parla à Moïse et lui dit « Je suis, Yod-Heh-Vav-Heh, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai et sous mon nom Yod-Heh-Vav-Heh, je ne me suis pas fait connaître à eux. Lo nodatilam. » Et là, c'est donc la forme grammaticale du fait connaître là, dans ces versets est évidemment très curieuse, puisque au lieu de mon nom, Yod-Heh-Vav-Heh, je ne l'aurais pas fait connaître, au lieu de hodatilam, le verset dit Lo nodatilam, je ne me suis pas fait connaître. Autrement dit, il y a là une curiosité grammaticale. Normalement, il aurait dû dire « je ne leur ai pas fait connaître mon nom ». Et il dit « non, je ne me suis pas fait connaître ». Alors ceci implique que le nom qui se révèle à Moïse comme libérateur futur des enfants d'Israël n'était pas connu de leur père, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Donc la question des enfants d'Israël qui est anticipée par Moïse, quand il va leur annoncer que le Dieu de leur père allait les délivrer de l'esclavage, et dit Moïse, ils vont me demander quel est son nom. Et en fait, comme l'explique d'ailleurs Rashi à ce sujet, le nom lui-même, le tétragramme, en tant que tel, leur était connu. Parce qu'évidemment, il est facile de trouver tout un tas de versets dans la Genèse où on parle du tétragramme en relation avec les patriarches. Mais, dit Rashi, le nom leur était connu seulement comme Dieu des promesses et pas de la libération future. Autrement dit, ce nom leur avait été connu, mais seulement limité au lieu des promesses non réalisées. D'où le remplacement de « Lo hodati lahem », je ne leur ai pas fait connaître mon nom, par « Je ne me suis pas fait connaître » à propos, donc cette fois-ci, du Dieu libérateur qui se révèle à Moïse. Alors, c'est à ce propos que je veux dire d'abord quelques mots sur le Shema Israël dans le Deutéronome. Alors bon, comme vous le savez tous, c'est dans ce livre, dans le Deutéronome, que se trouve une expression fondamentale du judaïsme traditionnel et qui joue le rôle d'une profession de foi en l'unité de Dieu, à l'imitation et sur le modèle des religions monothéistes. Bon, en fait, il n'en est rien quand cette expression est replacée dans son contexte biblique. À ce propos, là, une petite parenthèse qui n'était pas prévue. J'ai été frappé, comme peut-être beaucoup d'entre vous, par les grandes manifestations ici contre l'antisémitisme, où la plupart des journalistes, et on dirait que leur bouche était écorchée quand ils voulaient parler des Juifs, et ils parlaient tous régulièrement des Français de profession juive. Et j'avais vu une émission extraordinaire où il y avait deux Juifs qui participaient à l'émission, eux étaient les seuls qui parlaient des Juifs. Et par contre, tous les autres journalistes parlaient toujours des Français de profession juive. Bon, ça, c'est une séquelle, si vous voulez, de ce qu'il y avait avant la Deuxième Guerre mondiale, où on disait les Français de confession israélite. Et tout ça, évidemment, parce que juif était une insulte, évidemment, à ce moment-là, et tout ça, évidemment, dans le cours de... comme conséquence, en quelque sorte, de la transformation du judaïsme en religion et de la difficulté, sinon de l'impossibilité, eh bien, de reconnaître le peuple juif comme un peuple, tout simplement, et pas seulement comme une religion, une profession, on dit. Bon, alors en fait, ce Shema Israël, c'est une adresse solennelle de Moïse à son peuple avant de le quitter dans le Deutéronome, et il leur dit, donc, écoute et comprends, donc Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai, c'est notre Elohim, ou nos Elohim, parce que Eloheinu, c'est aussi un pluriel, et Adonai Echad, donc il est un. Et c'est là où le peuple est engagé à identifier et unifier le Dieu des Pères avec le Dieu de Moïse, qui est devenu le Dieu national du peuple. Et c'est en disant « Eloheinu, notre Elohim » que Moïse entend le sien et celui du peuple d'Israël auquel il s'adresse en disant « Nous avons le même ». Alors, l'enjeu maintenant de l'histoire qui va suivre dans la Bible, c'est le rapport entre Moïse et le peuple d'Israël, à savoir l'acceptation par le peuple du Dieu révélé à Moïse, d'abord au buisson ardent, puis ensuite au Sinaï, bien que différent du Dieu des promesses héritées de leur père, qu'ils n'avaient connu que sous le nom de El Shaddai. La libération et l'accomplissement des promesses donc se trouvent associés à un pacte d'alliance entre Israël et ce Dieu qui devenait son ou ses Elohim en l'adoptant comme son peuple. La loi enseignée par Moïse en son nom était le lien par lequel l'alliance était scellée. Mais cette alliance était bien fragile et Moïse le savait, comme le montrent les malédictions qui annoncent les malheurs qui s'abattront sur Israël quand ils transgresseront la loi. Et il les met en garde contre les mœurs des Égyptiens qu'ils avaient quittés et des Cananéens et autres peuples de la terre où ils allaient entrer. D'où l'avertissement de Moïse à Israël sur son lien d'alliance avec ce Dieu nouveau qui est le même que celui qui s'est révélé à lui au buisson, au Sinaï et dans le désert et au nom duquel il enseigne la loi. Et c'est là où il leur dit « Écoute, comprends Israël, Yod-Heh-Vav-Heh est notre Elohim, commun à vous et à moi, Yod-Heh-Vav-Heh est un. » Autrement dit, il fallait faire reconnaître au peuple que ce Dieu qui s'était révélé à Moïse, d'abord au buisson puis au Sinaï, était le même que El Shaddai qui avait fait les promesses à leur père. Autrement dit, que les enfants d'Israël intègrent que Yod-Heh-Vav-Heh était leur Elohim commun. Et c'est avec la loi qu'il enseigne qu'est alors établi un lien réciproque par lequel le peuple d'Israël le reconnaît comme son Elohim, révélé à Moïse, et qu'il reconnaît les enfants d'Israël comme son peuple. Donc un pacte d'alliance entre un peuple et un Dieu, pacte d'alliance particulière du Dieu national d'Israël qui implique un culte exclusif, évidemment, donc une monolâtrie, un seul Dieu dans un seul sanctuaire et une législation sociale et morale propre à ce peuple. Mais la suite de l'histoire de cette alliance, telle que la raconte la Bible hébraïque après la mort de Moïse, montre comment se réalisèrent ces prédictions, bonnes et mauvaises. Il s'agit toujours de cette relation particulière entre un peuple et son Dieu qui doit rester pour Israël unique parmi les dieux. Donc, « Mi kamocha ke Israël », ça c'est pour le peuple, « Ve mi kamocha ba'elim Adonai », ça c'est pour le Dieu. Seulement, voilà que cette signification du Shema dans le Deutéronome, eh bien, elle évolue, et de façon encore plus significative plus tard, dans la Torah orale. Alors, on peut citer, par exemple, comme évolution, eh bien, l'interprétation par Rashi de ce premier verset du Shema, où Rashi distingue la première partie, c'est-à-dire Adonai Eloheinu, c'est notre Elohim. Donc, cette première partie se réfère, d'après Rashi, seulement au Dieu d'Israël, qui est commun à Moïse et au peuple, mais et à l'exclusion des autres peuples qui sont adorateurs des astres, et ceci seulement pour le présent. Parce que la deuxième partie du Shema, c'est-à-dire Adonai Echad, alors ça, c'est un au sens à la fois de unifié et de unique, mais reconnu comme tel par tous les peuples. Suivant la prédiction de Zacharie qui dit « En ce jour, Adonai sera un et son nom sera un pour tous. » Pour tous, dans le futur. Donc, la première partie du Shema Israël, c'est seulement pour Israël. Deuxième partie, c'est pour tous. Voilà comment donc Rashi interprète. Il existe par ailleurs alors un Midrash talmudique extrêmement intéressant dans Psachim qui attribue la phrase « Shema Israël » non pas à Moïse, mais aux enfants d'Israël. Ce sont les enfants d'Israël qui disent « Shema Israël, écoute Israël » en s'adressant à leur père qui est Jacob Israël. Donc ils s'adressent à leur père en s'adressant à lui. Mais à quelle occasion ça se produit ? Bien parce que quand Jacob était près de mourir, il voulait prophétiser sur l'avenir de chacun de ses enfants. Et puis voilà que le don prophétique le quitte et qu'il n'arrive pas à le faire. Alors il est inquiet, il pense qu'il y a un défaut dans sa descendance. Et à ce moment-là, ses enfants le rassurent. Et il le rassure en lui disant « Shema Israël, écoute Israël », etc. Et à ce moment-là, alors, Jacob est rassuré et il prononce la phrase « Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed », qui est une phrase d'ailleurs qui se trouve dans tous les rituels, c'est-à-dire qu'on est censé, et qu'on dit d'ailleurs, après avoir dit « Shema Israël », la traduction est « béni le nom de la gloire de sa souveraineté pour l'éternité à jamais ». Donc, c'est ce que ajoute en quelque sorte Jacob, lui, à l'audition du Shema Israël, qui le rassure sur l'unité du coup du peuple avec lui. Et voilà que cette phrase, donc, est insérée maintenant dans la liturgie, donc dans le rituel. Bien, comme vous le savez, on doit la dire à voix basse. Et on l'a dit à voix basse hein, parce que justement les sages du Talmud n'étaient pas d'accord. Les uns pensaient qu'il fallait la dire et les autres pensaient qu'il ne fallait pas la dire. Et le compromis a consisté à la dire à voix basse. Sauf au jour de Yom Kippour, mais ça, je ne vais pas entrer maintenant dans un détail supplémentaire. Alors, il résultait de tout cela, donc pour le tétragramme, un statut très particulier du Dieu particulier de Moïse et d'Israël. Alors, il est d'abord, ce Dieu particulier, Gadol Mikol Elohim. Il est plus grand que tous les dieux. Et ceci est prononcé donc dans le contexte polythéiste de l'Exode, d'autant plus significatif qu'il s'agit d'une exclamation de Yitro, le beau-père de Moïse, qui était prêtre de Midian, dont on dit, d'après le Midrash, qu'il était expert en toutes les idolâtries. Il n'y en avait pas une seule qu'il ne connaissait pas. Et voilà qu'il reconnaît la grandeur de ce Dieu particulier devant les prodiges de la sortie d'Égypte et de l'expérience du Sinaï. À partir de là, le nom de ce Dieu révélé à Moïse, donc le tétragramme, lui-même divin et non pas nom de Dieu, comme nous allons le voir, va subir une série d'aventures qui marquent l'histoire du judaïsme et de la Torah orale jusqu'à devenir le Dieu des religions monothéistes. Alors donc, c'est cette série d'aventures que je vais essayer de survoler un petit peu. Alors, notons d'abord que dans la formule du Shema Israël, qui exprime qu'il est un, eh bien, on a un rapport particulier assez ambigu avec le pluriel Elohenu, qui peut dire aussi bien notre que nos Elohim. Et c'est encore plus évident avec l'affirmation souvent répétée dans la liturgie, Adonai hu a Elohim. Adonai hu a Elohim, qui veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire Adonai, c'est lui les Elohim. C'est-à-dire l'ensemble ou la totalité des Elohim. Ce rapport ambigu avec le pluriel, eh bien, il est établi dans certains textes de la Kabbale en faisant jouer un rôle central aux lettres et aux voyelles du tétragramme, alors qu'il va être transformé dans le Talmud en un nom qui ne se lit pas comme il est écrit, et ça, nous allons y revenir. Mais avant ça, je veux d'abord montrer comment l'unité du Shema lui-même est traitée dans le Sefer Abaye à partir de la démultiplication du tétragramme. Donc ça, c'est un peu c'est un commentaire assez extraordinaire du Sefer Abayir, qui est l'un des plus anciens livres de Kabbale, et qui montre donc dans ce passage comment le nom, c'est-à-dire le tétragramme, peut être à la fois d'abord démultiplié dans toute chose et ensuite réunifié dans la formule du Shema. Alors, en fait, bon, là, parmi les papiers qui vous sont distribués, il y a une photocopie d'une page du Sefer Abaye où ceci est présenté
la dernière.
Dans une traduction en parallèle avec l'hébreu, quoi. Donc, il commence par faire une multiplication à l'infini du nom, qui est effectuée par une série d'opérations assez compliquées qui portent sur les quatre lettres qui composent le nom. Or, ces lettres sont mises en relation avec des versets particuliers de la Torah, et puis à la suite de répétitions et de permutations, elles produisent des noms de 12 lettres et de 72 lettres. Ces noms de 12 lettres et 72 lettres qui sont mentionnés dans le Talmud, mais sans les expliciter. Et tout cela aboutit à ce que le Baïr appelle les 72 noms de HaKadosh Baruch Hu. Et ces 72 noms sont comparés à des légions. Mais voilà que le Baïr continue en disant « Ces légions sont innombrables. » D'après un verset du livre de Job qui dit « Peut-on dénombrer ces légions ?» Alors s'il en est ainsi, ça veut dire que cela fait 72, puis 72, puis 72 indéfiniment, c'est-à-dire un nombre infini. Et là, alors le Baïr se répond à lui-même en disant non, car dès qu'Israël apporte un sacrifice, donc un korban de la racine karov, approché, donc dès qu'Israël apporte un sacrifice devant son Père dans les cieux, toutes ces formes, donc à l'infini, s'unissent ensemble, et c'est cela qui constitue Yehudo shel Elohenu, l'unification de notre Elohim dans la formule du schéma. Voilà, autrement dit, on bascule d'une multiplication à l'infini à l'infini. Alors, en revenant maintenant aux aventures du nom révélé à Moïse dans l'Exode, eh bien, quelques questions se posent, pour le moins assez énigmatiques, sur le statut et le devenir du tétragramme. Ce tétragramme, donc révélé à Moïse, je le rappelle, par la voix de Ha Elohim qui lui parlait au buisson. Donc c'est Ha Elohim qui parle à Moïse au buisson ardent et tout le discours s'ensuit. Alors, en fait, dans certains commentaires, kabbalistes anciens disent que cette voix qui lui parlait, c'était celle d'un ange du nom de Métatron que nous allons rencontrer un peu plus tard dans le cours de cet exposé. Alors rappelons qu'il s'agissait là de répondre à la question « Quel est son nom ?» que Moïse prévoyait de devoir donner aux enfants d'Israël quand il leur dirait que c'était le Dieu de leur père qui l'envoyait vers eux. Eh bien, curieusement déjà, ce n'est pas le tétragramme qui est la première réponse qu'il reçoit. C'est d'abord dans le fameux verset Exode 3,14 connu de tout le monde, « Eyé asher eyé, je serai ce que je serai » qui est faussement traduit par « Je suis celui qui suis ». Mais ce nom est destiné d'abord à Moïse lui-même seulement, car il est introduit dans le verset par « Elohim dit à Moïse ». Donc Moïse demande « Quel est son nom que je leur dirai ?» et on lui dit à lui Eyashereye. Mais ce nom est immédiatement complété dans le même verset et corrigé par, et il dit, voici ce que tu diras aux enfants d'Israël, voilà pour les enfants d'Israël le nom que tu leur donneras, et celui-là c'est Eye, tout court. Donc c'est Eye m'a envoyé vers vous. Alors de toute évidence, la réponse qu'il reçoit à cette question de répondre aux enfants d'Israël, c'est Eye, c'est je serai, et introduit donc cette fois par voici ce que tu diras aux enfants d'Israël. Mais ce n'est pas fini, parce que tout de suite, le verset suivant ajoute, Elohim dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux enfants d'Israël, donc à nouveau, Yodhe Vavre, Elohim de vos pères, Elohim d'Abraham, de Israël, Elohim de Yaakov, m'a envoyé vers vous, Ze Shmi, Veze Zirchi, les dos d'or, ceci est mon nom pour l'éternité, et ceci est mon souvenir de génération en génération. Alors, première énigme, le nom de quatre lettres, Yodhe Vavre, est maintenant introduit et ajouté dans le verset 3.15, donc celui qui suit celui de Yahshereye. Donc, il est ajouté dans ce verset au nom Eye du verset précédent comme réponse à la question de Moïse sur quel est son nom à donner aux enfants d'Israël. Mais le nom Eye disparaît totalement. On ne le trouve nulle part en tant que nom dans toute la Bible. Autrement dit, il semble que Moïse non seulement n'utilise pas Eye dans sa réponse, mais le remplace purement et simplement par le tétragramme. À partir de là, deuxième énigme. Ce nom de quatre lettres, Yod-Heh-Vav-Heh, va devenir central et assez mystérieux avec sa vocalisation, qui est devenue assez vite un secret, dans l'histoire des Hébreux, puis du peuple juif et encore jusqu'à aujourd'hui. Or, c'est d'abord ce nom qu'entendent les Hébreux depuis le mont Sinaï et qui leur dit « Anochi », c'est-à-dire « c'est moi, votre Elohim qui vous a fait sortir d'Égypte et pas un autre ». Et c'est à ce nom que doit être rendu donc le culte des enfants d'Israël pour leur Elohim. Ce culte essentiellement sacrificiel est confié aux prêtres, Kohanim, descendants d'Aaron, et il doit être exclusif. Mais il faut remarquer que les enfants d'Israël avaient d'abord reçu une mission par l'intermédiaire de Moïse. Vous serez pour moi, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, vous serez pour moi un royaume de prêtres et un Goy Kadosh, un royaume de prêtres et un Goy, un peuple ou nation sacrée. Entre parenthèses, vous voyez qu'on a tort de réserver le nom de Goy au nom juif, puisque le peuple juif est évidemment un de ces peuples. Question, différence entre Goy comme peuple et Am comme peuple aussi. Peut-être. Bon. Alors, il semble donc que cette mission-là, d'être un Mamlechet Kohanim Goy Kadosh, un royaume de prêtres et un peuple sacré, eh bien, il semble que cette mission-là, eh bien, n'est pas aboutie. Puisque, voilà que... Les enfants d'Israël, déjà dès le temps de Moïse, ne sont pas devenus un royaume de prêtres et un goy kadosh, puisque voilà que la prêtrise a été confiée aux seuls descendants d'Aaron. À partir de là, le nom est devenu progressivement un tabou, doué de pouvoirs divins en lui-même. Alors, ceci est très important, parce qu'on va le voir en détail un peu, c'est-à-dire que ce n'est pas le nom de Dieu, mais c'est un nom qui en lui-même est divin. Alors, il est divin, comment ? Dans son utilisation, dans des serments, entre autres, comme l'indique déjà, malgré un contresens fréquent sur lequel nous reviendrons, à savoir à propos d'un verset des 10 commandements, tu l'otissa et tchem adonai ilashav, donc tu n'invoqueras pas le nom en vain. Alors, les Kohanim devaient en particulier invoquer ce nom de quatre lettres, devenu le nom. Shem Anirbad, nom glorieux, ou Shem Amforash, nom explicite ou caché, en appelant sur le peuple une triple bénédiction avec sa conclusion, et ils, c'est-à-dire Aaron et ses fils, placeront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Alors, c'est à ce propos que apparaît dans le Talmud, notamment dans Kiddushin, la question du caractère secret du tétragramme. dans un contexte où il s'agit pour les Chachamim de devoir cacher certaines choses, on lit que Rabba Bar Bachana a dit au nom de Rabbi Yochanan, le nom de quatre lettres, les Chachamim le transmettent à leurs élèves une fois par semaine. D'autres disent deux fois par semaine. Et on peut remarquer que pour Rashi, il ne s'agit pas seulement de la prononciation et de l'écriture du nom, mais aussi de son pirouche, c'est-à-dire son explication, son interprétation, qui devait être cachée, pas totalement, mais réservée à une minorité qui en était digne. Alors s'en suivent des remarques, toujours dans ce même passage du Talmud, de Rav Nachman Bar Yitzhak et de Rava, et pour eux, il s'agit là de la nécessité de cacher la transmission du nom, et ils fondent cette nécessité sur le verset de l'Exode que nous avons déjà rencontré, où il est dit « Zeshmi leolam vezezichri ledodor » « Ceci est mon nom pour toujours, et ceci est mon souvenir de génération en génération. » Alors en fait, il ne cite là que la première partie de ce verset, c'est-à-dire « Zeshmi leolam, ceci est mon nom à cacher. » Alors à cacher, qu'il faut traduire, qu'il faut comprendre comme « à cacher » et non pas « pour toujours ». Alors pour une question très précise, parce que le mot « leolam » est traduit habituellement donc par « mon nom pour l'éternité », au sens pour la durée du Olam, la durée du monde. Mais dans ce verset, voilà, il se trouve que Olam s'est écrit d'une certaine façon, sans un vav, qui indique la racine différente de Ne'elam, qui veut dire caché, plutôt que Olam monde. Autrement dit, Rav Nachman Bar Yitzhak et Rava disent, lise Zeshmi le Olam, non pas comme ceci est mon nom pour l'éternité, ou à jamais, mais plutôt comme ceci est mon nom à cacher, qu'il faut cacher. Les Halim, dit Rashi. À quoi Rabbi Akiba objecte que la répétition de Zé dans le verset, c'est-à-dire ceci, qui est répété, ceci est mon nom et ceci est mon souvenir, eh bien, indique qu'il s'agit ici de deux noms, donc l'un écrit, l'autre prononcé. Et d'où sa conclusion que dans ce verset, Akadosh Baruch Hu dit à Moïse donc, de dire aux enfants d'Israël à propos du nom Yod-Heh-Vav-Heh, Je ne suis pas prononcé comme je suis écrit. Voilà ce que Akadosh Baruch Hu dit, d'après Rabbi Avinah. Je suis écrit avec le nom de quatre lettres, c'est-à-dire Yod-Heh Vav-Heh, qui commence par Yod-Heh, et je suis prononcé avec le nom de Adnut, c'est-à-dire de souveraineté, par le nom Adonai, qui commence par Aleph Dalet. Eh bien, cette conclusion talmudique, à peu près trois siècles après la destruction du deuxième temple, elle est reprise ailleurs dans un autre traité du Talmud, dans Psachim, avec cette même distinction à nouveau entre deux noms, l'un écrit et l'autre prononcé. Mais ici, la même conclusion que le tétragramme est un nom qui n'est pas prononcé comme il est écrit, cette même conclusion, elle est mise en relation avec un autre thème qui est celui de la distinction entre son monde ci, Olam Hazeh, et le monde qui vient, le Olam Haba. Alors, entre parenthèses, ceci n'est pas sans intérêt pour comprendre cette notion répandue mais obscure de Olam Haba, donc monde qui vient, plutôt que monde futur, ou encore de l'Atid Lavo pour le monde à venir, etc. Alors, dans ce verset de Zacharie, il s'agit donc de cette différence entre les deux mondes, puisque c'est à ce propos, à propos de ce verset qui dit « Adonai sera roi sur toute la terre », en ce jour, Adonai sera un et son nom un. Et à ce propos, donc, une question est posée. Est-ce que cela veut dire, comme c'est en ce jour, donc dans le futur, que maintenant, son nom n'est pas un ? Donc on dit qu'il est un maintenant, mais que son nom n'est pas un maintenant. À quoi Rav Nachman Bar Yitzhak répond ? Eh bien, le monde qui vient n'est pas comme ce monde-ci. Olam Hazeh n'est pas comme Olam Haba n'est pas comme Olam Hazeh. Pourquoi ? Parce que dans ce monde-ci, le nom est écrit avec les lettres Yod-Heh, avec donc le tétragramme, et il est prononcé ou lu avec les lettres Aleph-Dalet. Et donc, autrement dit, il reprend la même conclusion que l'autre passage de Kiddushin, où on disait donc qu'il n'est pas lu comme il est écrit. Mais pour le monde qui vient, il est tout un. Donc, dans Olam Haba, eh bien, il n'y aura plus deux noms. Et il sera tout un, il est prononcé avec Yod-Heh, et il sera comme il est écrit avec Yod-Heh dans Olam Haba. Cette décision des maîtres du Talmud, eh bien, elle est passée dans la célébrité en devenant une espèce de tabou sur le tétragramme dont la prononciation était interdite à jamais et remplacée par le nom Adonai. Mais là, il faut remarquer que ce tabou est d'autant plus fort que la vocalisation primitive, c'est-à-dire comment il était écrit, eh bien, elle n'est pas connue de façon certaine. Autrement dit, il est interdit de l'utiliser, mais on ne sait pas ce qui est interdit de l'utiliser, puisqu'on ne connaît pas cette vocalisation primitive. D'où cette idée courante, mais assez courte, à mon avis, et contestable, que le Dieu des Juifs, inconnaissable, aurait un nom ineffable. Alors enfin, le tabou s'est étendu et dénaturé ces derniers temps du fait d'un double contresens sur la traduction des 10 commandements, Lo tissa et shem Adonai lashav, tu n'énonceras pas le nom Adonai en vain. Alors cet interdit est souvent compris comme tu n'énonceras pas le nom de Dieu en vain, comme si Dieu était la traduction du tétragramme, dont la Bible elle-même donc interdirait de prononcer le nom. Or il y a là un double contresens. D'une part, il ne s'agit pas en hébreu biblique du nom de Dieu, mais du nom, avec évidemment sa vocalisation, étant donné que le mot Dieu n'existe qu'en traduction, et les autres noms bibliques couramment considérés comme autant de noms de Dieu ou de ses attributs sont autant de désignations diverses de divinité, parfois au pluriel, comme on l'a vu, comme Eloah, Elohim, El, Elim, parfois désignés avec un article défini, comme A Elohim, A Elim, et seul, comme le fait remarquer Ibn Ezra, le nom de 4 lettres est le seul qui soit un nom propre, sans article. C'est-à-dire un nom éventuellement mobilisable dans des utilisations sacrées, rituelles ou non, comme dans des sermons. Alors notons au passage que, d'un point de vue strictement linguistique, sémantique, la notion de nom de Dieu habituel est assez problématique parce que elle suppose la connaissance du signifié, qui serait Dieu, indépendamment du nom propre, qui en est le signifiant par lequel il est dénommé. Alors bon, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez, cette question de la logique des noms propres, elle est traitée par un élève de Wittgenstein, qui était lui-même fils d'un rabbin talmudiste, qui a écrit un livre donc sur la logique des noms propres, qui montre justement les problèmes que ça pose. Deuxième contresens, il résulte que cette interdiction ne porte pas sur la simple prononciation du nom, mais sur son utilisation, la chave, vaine, c'est-à-dire en particulier dans un serment, soit qu'il s'agisse d'un serment mensonger, soit d'un serment inutile, car il porterait sur une évidence. Bon, c'est ça qui est analysé un petit peu dans le Talmud, dans Shavuot, et puis dans le Rashi sur la question. Et donc, à ce propos, on peut dire que c'est au pouvoir créateur du nom, comme un véritable pouvoir magique, si on peut dire, que fait référence son usage juridique dans les serments. Autrement dit, c'est parce que le nom en lui-même a une valeur qu'on l'utilise dans le serment, indépendamment de savoir de qui ou de quoi c'est le nom, c'est le nom. Shema Nirbad, etc. Alors on peut en effet parler dans ce contexte et ailleurs de pouvoir magique. Alors en effet, jusqu'à la Renaissance, vous savez peut-être que la science de l'époque contenait l'alchimie, la médecine de Paracelse, l'astrologie, l'hermétisme et aussi la Kabbale. Et la notion de monde créé par un langage et de puissance de la parole impliquait la recherche de formules constituées de lettres et de nombres qui devaient permettre d'agir sur le monde naturel. Il s'agissait d'un rationalisme pré-scientifique qu'on a qualifié de magie naturelle. Et la révolution scientifique, évidemment, commencée au XVIe et XVIIe siècle, a remplacé l'utilisation magique des noms et des formules par la méthode expérimentale et des formules physico-mathématiques ont commencé à montrer leur efficacité beaucoup plus grande en expliquant de façon reproductible des observations expérimentales. Et entre autres, la chimie, par exemple, a remplacé l'alchimie. Eh bien, pour la Kabbale ancienne de la littérature des Khalot et de ses utilisations magiques, le tétragramme n'est pas le nom de Dieu, il est identique à ce qu'il désigne, de même que les noms des nombreux anges sont eux-mêmes les forces qu'ils désignent et sont ainsi doués de pouvoirs créateurs. Alors, ce qu'on appelle la Kabbale ancienne, bon, qui est contemporaine du Talmud et qui est moins connue que le Zohar et les textes qui le précèdent et qui le suivent, bien, elle est constituée de manuscrits anonymes. Ils sont mentionnés dans un chapitre, entre autres, du livre bien connu de Scholem sur les grands courants de la mystique juive, et certains ont été traduits et publiés récemment. Et l'un d'entre eux, le livre hébreu d'Enoch, a été traduit en français et annoté par le regretté Charles Mopsik dans une introduction tout à fait extraordinaire que je vous recommande, et des références à d'autres livres encore, pas encore traduits en français. Une spécialiste de la Kabbale ancienne, qui s'appelle Rachel Lior, qui est professeure à Beersheba, a écrit un article, entre autres, qu'elle a intitulé en anglais « Sur le concept de Dieu dans la littérature des Khalot ». Et elle écrit que cette conception du nom divin n'est pas celle d'un nom de Dieu, mais d'un nom égal à la substance divine. Il est son nom et son nom est lui. Il est en lui-même et son nom est en son nom. Et plus précisément, son nom n'est pas une désignation, un titre ou une adresse liturgique. Il incarne son essence, sa substance, sa puissance et son être. Alors, Charles Mopsik rapporte aussi une version légèrement différente de la même idée en citant un passage du traité Maaseh Merkaba dans ses annotations, justement, du livre hébreu d'Enoch qu'il a traduit sur les noms de Dieu. Et à ce propos, on peut lire que Akadosh Baruch Hu a 70 noms de prononçables et exprimables qui sont produits par des permutations des lettres du tétragramme. Et les autres noms qui ne peuvent pas être exprimés, ils sont sans nombre. Alors les noms des 43 premiers parmi les 70 sont indiqués dans le livre en question et chacun est qualifié de Adonai Tsebaot, Kadosh, 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 donc sacré, 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 de la formule bien connue d'Isaïe qui est reprise d'ailleurs, comme vous le savez, dans le rituel liturgique. À chacun des 26 autres noms est associé ensuite la qualification qui est Yah, le grand Yod-Heh-Vav-Heh. Alors je cite ici Mopsik. Les noms divins sont décrits comme très supérieurs aux anges. Ils se confondent avec Dieu lui-même, ce que déclare explicitement un passage du traité Maaseh Merkaba. Son nom est plus saint que ses ministres officiants. Il est son nom et son nom est lui. Lui est en lui et son nom est en son nom. Chant est son nom et son nom est Chant. Les noms sont regardés comme des entités célestes vivantes et personnalisées, porteurs de puissance et de gloire, et non pas comme des appellations conventionnelles qui servent à désigner ou à nommer. Évidemment, tout cela concerne aussi les noms des nombreux anges qui sont eux aussi doués de force et qui remplissent cette littérature. Alors, à propos d'actions effectuées par la puissance magique des noms, il faut dire un mot sur leurs utilisations actuelles par la Kabbale, ainsi d'ailleurs que par le Talmud. Alors là, je suis en train de m'emmêler les pédales avec les papiers. Voilà. Les utilisations actuelles, les utilisations médicales et autres, aussi bien dans la Kabbale que dans le Talmud, utilisation de talismans, d'incantations, qui étaient déjà condamnés par Maïmonide, eh bien, sont encore utilisées dans des pratiques superstitieuses d'une cabale dite pratique, la Kabbalah Maasit, comme on dit, à laquelle on doit opposer la Kabbalah dite Iyunit, c'est-à-dire celle qui est faite d'une étude approfondie, de recherche, éventuellement en dialogue d'ailleurs avec la philosophie. Et je pense par exemple à la Kabbale du Rav Kook, le père. Mais bien que la Kabbale soit souvent utilisée actuellement dans le rituel des pratiques liturgiques et de méditation, sans qu'on le sache d'ailleurs, parce que évidemment tout le monde ne s'est pas plongé dans ces textes. Et c'est à ce propos que je voudrais maintenant vous montrer quelque chose. Donc c'est un objet, et là du coup je vais être obligé de me lever.
C'est une surprise.
Voilà. Alors, j'avais pas prévu qu'on serait tous assis comme ça, mais ça me fait mal. Donc je veux vous montrer un objet qui me semble assez intéressant. Voilà. En fait, c'est un t-shirt. C'est un t-shirt sur lequel est écrit quelque chose. Et c'est un t-shirt que... avec mon épouse regrettée, nous avions rencontré quand nous avons visité le MIT. Et dans ce MIT, il y avait dans le magasin pour les étudiants, eh bien, on a vu comme ça un t-shirt sur lequel je suis resté stupéfait et que j'ai décidé d'acheter au moins 3 ou 4 de ce t-shirt à cause de ce qui est écrit. Alors voilà ce qui est écrit, donc je vous l'ai amené. Vous voyez ? Voilà. And God said, donc Dieu a dit, puis il y a une série d'équations que presque personne, j'imagine, dans cette assemblée peut déchiffrer. Et si c'est le cas, ben bravo. Et à la suite de ça, and there was light. Et il y a la lumière. Comme on dit, Vayomer Elohim Yehor, Vayehor. Et quand j'ai vu ça, donc qui était destiné aux étudiants du MIT, qui eux comprenaient parfaitement la signification de cette équation. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, en effet, si Dieu a dit quelque chose pour créer la lumière, ça ne peut être que ces équations. Et pourquoi ? Eh bien parce que ces équations, justement, se trouvent être les équations de Maxwell, qui sont bien connues des physiciens, comme étant ce qui décrit la nature et la propagation de la lumière. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense toujours que c'est probablement ça qu'il a pu dire. Mais justement, c'est là où il y a une différence, c'est que en réalité, ben pour la Kabbale pratique, justement, et pour tous ceux qui croient en l'efficacité magique des noms aujourd'hui sous cette forme, eh bien, il y a une différence entre la nature de l'efficacité qui vient des équations de la physique mathématique et la nature de l'efficacité qui vient justement de cette manipulation des lettres du nom qui garde toute sa valeur, mais évidemment à condition de ne pas croire que leur utilisation puisse être efficace. Donc, heureusement ou malheureusement, ça je ne saurais pas vous le dire, eh bien, pour ce qui concerne la lumière, eh bien, il vaut mieux les équations de Maxwell que les formules magiques, et avec la grande différence que les équations de Maxwell, on peut les répéter 46 fois, et ce n'est pas ça qui va créer la lumière. Il faut un dispositif expérimental pour arriver à mettre en évidence la valeur de ces équations. Alors, je ne sais pas si on peut continuer encore maintenant. Comment ? Je ne sais pas, non, c'est comme vous voulez. Il y a encore un peu de temps ?
Non,
bon.
Bon. Vous voulez que je propose ?
Non, c'est pas maintenant. Alors, bien, à propos de superstition, on peut observer encore d'autres dérives superstitieuses sur les noms de Dieu. Et le résultat du double contresens dont je vous ai parlé sur ne pas prononcer le nom en vain a pour résultat aujourd'hui alors une extension du tabou du tétragramme à la limite parfois d'un certain ridicule idolâtre qui est reporté cette fois-ci en traduction sur le mot Dieu lui-même. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, on le trouve écrit de façon curieuse, en traduction diverse, comme des points, D.EU, ou G en anglais, ou G.OD, etc. Et alors, remplacer oralement par Adonai ce qui est correct, comme on l'a vu, d'après le Talmud, et en hébreu par Hachem, qui est aussi une traduction littérale correcte de le nom, Hachem. Mais le ridicule revient à la limite de la superstition lorsqu'on se croit obligé d'utiliser le mot non traduit, là, de Hachem, au milieu d'une phrase en traduction française ou en autre. Et on se demande pourquoi. Ben, si c'est probablement pour éviter de dire le mot Dieu, des majuscules, alors qu'en fait, il s'agit bien de cela le plus souvent dans la bouche et la foi de celui ou celle qui parle ou écrit en traduction. Tout se passe comme si le tabou, l'interdit, était étendu à l'écriture et à la prononciation du mot français Dieu ou God, ou en anglais ou God en allemand, etc. Alors, parmi les énigmes qu'on a un petit peu rencontrées en passant, reste la question, quel est son nom ? La question que Moïse pose en disant, quand je vais leur annoncer la libération à le Dieu de leur père, ils vont me demander quel est son nom, et la réponse énigmatique donc, qu'on a vue dans l'Exode de 3, dans les versets 14 et 15. Alors, nous avons vu donc Ayez en tant que nom disparaît purement et simplement, alors qu'il était censé être le nom que Moïse devait indiquer aux enfants d'Israël. Et le tétragramme le remplace, et par décision talmudique, maintenant, il est devenu, donc, comme on l'a vu, cette sorte de tabou qui ne se prononce pas comme il est écrit. Dans les livres du rituel, je suppose que vous l'avez remarqué, il est écrit soit avec les voyelles de Adonai, ce qui a donné le mot Jéhovah, parfois utilisé dans certaines traductions. On le trouve aussi parfois écrit avec les voyelles de Elohim, mais on ne sait pas quelles sont ces véritables voyelles, puisque bon, elles ont été apparemment oubliées. Et c'est en cela que c'est une sorte de tabou dédoublé, puisqu'on ne sait pas avec certitude comment il était écrit et donc prononçable. Donc, quelles étaient les quatre voyelles qui permettraient de le prononcer comme il est écrit, au moins jusque dans le monde qui vient, puisque dans l'Olam Haba, on a vu qu'il n'y en aura qu'un seul. Eh bien, en fait, on peut observer maintenant que ce qui était caché est réapparu dans une certaine mesure et a été dévoilé aussi dans une certaine mesure. Par exemple, le nom disparu, Ayé, qui a disparu effectivement en tant que nom dans la Bible, eh bien, et aussi réapparaît, et de même la prononciation primitive du tétragramme, qui était interdite et pratiquement oubliée, aussi a réapparu dans la tradition ésotérique du judaïsme, c'est-à-dire dans certains textes de Kabbalah. Alors pour le nom Ayé, eh bien bon, c'est très simple, il apparaît dans l'arbre séphirotique de la Kabbale, comme de la Kabbale lourianique, comme la première sphira, Keter, c'est-à-dire la couronne, source des 9 autres sphirotes, et elle est parfois considérée comme un néant, ou à partir, qui sert d'intermédiaire avec la source infinie inconnaissable, donc le Ensof, tandis qu'elle est aussi parfois confondue avec elle, purement et simplement, ça dépend des auteurs. On conçoit donc qu'elle ait reçu le nom de l'inconnu du futur, je serai. C'est-à-dire donc, l'inconnu du futur, c'est le Eye, eh bien, est associé à la Sphira Keter, la première, qui est elle-même raccrochée à sa source, etc. Enfin, pour moi, je dois dire que quand j'ai étudié ces choses-là, eh bien, cette signification-là du « je serai » m'est apparue un peu comme le texte d'une chanson que vous connaissez peut-être, qui est « Que sera, sera ». Voilà. À l'origine, dans l'Exode, Ayé, je serai donc comme un nom, est une réduction pour le peuple de je serai ce que je serai, qui était destiné à Moïse. Alors, cette réduction est expliquée dans le Talmud, c'est pour ça que je reviens là-dessus maintenant. Elle est expliquée comme ce que Moïse comprend de cette répétition, à savoir que cette délivrance annoncé pour maintenant, pour la sortie d'Égypte, cette délivrance-là ne sera pas la dernière. Et il explique, « Ayez à chair, ayez, comme je serai avec eux dans cette souffrance, celle qui va venir, que, comme je serai avec eux dans un futur plus lointain, sous l'esclavage par les nations. » Et alors Moïse observe alors que vraiment ça suffit comme ça, et qu'il suffit de mentionner la souffrance présente, sans mentionner aussi d'autres souffrances à venir. Eh bien, cette remarque est prise en compte, et le nom destiné au peuple est réduit à un seul « je serai ». Alors, une petite remarque en passant, le fait que Moïse observe ce qu'il observe implique qu'on lui attribue aussi la connaissance d'un déterminisme du futur, qu'on peut attribuer peut-être à son caractère prophétique. Autrement dit, quand il dit « ayez à chair, ayez », ça veut dire qu'il y aura une autre souffrance, ça veut dire qu'il sait déjà à l'avance qu'il y aura d'autres souffrances que celle de la sortie d'Égypte. Eh bien, maintenant, à propos de ce qui restait caché, la prononciation et l'écriture primitive du tétragramme, eh bien, je voudrais parler maintenant, justement, de l'ange Métatron avec quelques détails. Alors, je me demande si vous connaissez, vous, l'ange Métatron. Je ne sais pas si vous avez fait connaissance avec ce monsieur, mais enfin, l'ange Métatron, en réalité, il remplit la Kabbale ancienne et en nous renvoyant à la prononciation primitive du tétragramme, justement. Mais il faut savoir quand même qu'il est mentionné 3 fois dans le Talmud, et que d'ailleurs il est même mentionné par Rashi et par Nachmanide à propos d'un passage de l'Exode où Adonai parle à Moïse. Alors ce passage de l'Exode, ben, il va nous retenir quelque temps. C'est un passage qui est le suivant, c'est dans l'Exode chapitre 23, des versets 20-21, et puis le chapitre 24, verset 1. Donc voilà le passage. Voici, c'est Adonai qui parle à Moïse. « Voici, c'est moi qui envoie un ange devant toi pour te garder sur le chemin et te conduire au lieu que j'ai préparé. Prends garde à lui et écoute sa voix. Ne te rebelle pas contre lui, car il ne pardonnerait pas votre faute. Car mon nom est en lui, Shmi Bekirbo. » Et à Moïse, il dit « monte vers Adonai. » Bon, ces trois versets-là vont nous retenir pas mal de temps, parce que, entre autres, c'est l'occasion de parler de Métatron, mais aussi parce que, justement, ils contiennent un certain nombre de problèmes. En particulier, cette expression « Shmi Bekirbo », « mon nom est en lui », comme Bekirbo, ça veut dire comme au milieu de lui, eh bien cette expression a provoqué évidemment beaucoup de commentaires. Et Rashi résume ses commentaires en disant « Nos maîtres ont dit que c'est Métatron, dont le nom est le même que le nom de son maître et a la même gematria, la même valeur numérique. » Alors il se trouve en effet que Shaddai. Il se trouve en effet que Shaddai et Métatron ont la même valeur numérique, 314. Je dis 314, je ne dis pas 3,14, parce que là, je crois que ce serait un peu exagéré, mais en tout cas, c'est 314. Quant à Nachmanide, eh bien, il mentionne lui aussi l'explication de nos maîtres, donc il s'agit de Métatron, dont le nom est celui de son maître, dit-il. Et il cite Rashi avec cette même gematria à propos de ces mêmes versets. Mais il se trouve que lui, Nachmanide, avait aussi mentionné ailleurs, à propos d'un autre verset, l'intervention de Métatron. Et là, il s'agissait de la plaie des premiers-nés, où on dit, donc, je passerai par la terre d'Égypte en cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né en terre d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête, je ferai justice sur tous les dieux d'Égypte. Je suis Adonai. Et là, ici, Rashi interprète par « je suis Adonai » comme « Anib Atzmi »,« je suis moi-même », L'Omalar Velo Shaliar, pas un ange, pas un envoyé. Alors, ceci, évidemment, rappelle la Haggadah de Pessah, qui semble, en fait, contredire le texte de l'Exode, où l'exécution de la mort des premiers-nés, elle est attribuée, en fait, à un ange, qui est l'ange destructeur, Hamashrit, comme on dit dans le verset. Et Rashi, évidemment, interprète là, cette attribution au destructeur de façon telle que la contradiction soit soulevée. Il dit que Adonai n'a pas permis au destructeur de frapper. Voilà. Mais Nachmanide, pour sa part, mentionne bien à ce propos un ange, donc, et justement un ange différent cette fois-ci des autres envoyés, le grand ange, comme il dit, appelé pour cela Métatron, du grec Métator, dont le nom veut dire guide, more derer, qui montre le chemin à Moïse. Et il mentionne aussi à ce propos, d'ailleurs, d'après le Midrash, que le doigt de HaKadosh Baruch Hu est devenu Métatron pour Moïse. Il lui a montré toute la terre d'Israël. Alors, ceci dit, il est intéressant maintenant de voir comment Métatron apparaît dans le Talmud et dans la Kabbale. Alors, dans le Talmud, il y apparaît trois fois. Une fois, dans le traité Sanhédrin, on raconte qu'un certain hérétique, donc Amin, avait trouvé une source de double divinité dans un verset qui semblait confirmer une croyance en un double pouvoir, Shterushuyot. Et c'est toujours à propos du passage de l'Exode où il est écrit « Mon nom est en lui ». Ce passage, en fait, raconte, comme on l'a lu, que Adonai parle à Moïse en lui disant en fait deux choses. Il lui dit d'abord, c'est moi qui envoie un ange devant toi. Alors prends garde à lui, etc., car mon nom est en lui. Mais ensuite, il ajoute, et il lui dit, monte vers Adonai. Et là, l'hérétique dit à Rav Idit, dans le verset en question, donc dans Sanhedrin, que le verset, pardon, dans le passage du Sanhedrin, donc l'hérétique dit à Rav Idit, que le verset n'aurait pas dû dire, monte vers Adonai, puisque c'est lui qui parle. Il aurait dû dire « monte vers moi », puisque c'est lui-même qui parle. Et donc, il y a là un soupçon de Shterushuyot, un soupçon de deux pouvoirs. Et en disant « monte vers Adonai », c'est comme s'il s'agissait donc d'un sujet différent de celui qui parlait à la première personne. Qui a dit. D'où le soupçon de gnosticisme, si on veut dire, si vous voulez, de double pouvoir divin, qui est introduit par l'hérétique. Et à quoi Rav Idit, qui est présenté comme un spécialiste des réponses au minime, eh bien, lui répond, pour éliminer cette possibilité de Shterushuyot, il lui dit, le « il » de « il dit » à Moïse, donc la deuxième fois, eh bien, ça n'est pas le même sujet. Ça n'est pas Adonai. C'est justement l'ange Métatron, dont le nom est comme le nom de son maître, et c'est pour ça qu'il dit « monte vers Adonai », et qu'il ne dit pas « monte vers moi ». Alors, Métatron apparaît ailleurs dans le Talmud, dans Chagiga, avec encore le même danger de dualisme gnostique. Là, c'est l'histoire de Elisha ben Abouya, que je suppose beaucoup d'entre vous connaissent bien. Donc, c'est l'un parmi les quatre sages qui entrent dans le Pardès, le jardin de la connaissance cachée, dangereuse, dont seul Rabbi Akiba sort en paix. Et là, Elisha ben Abouya, qu'est-ce qu'il voit, lui ? Et il voit justement ce Métatron, en train d'écrire les louanges d'Israël. Elisha ben Abouya est extrêmement choqué parce qu'il a une tradition suivant laquelle il aurait dû le voir debout et pas assis sur le trône du roi. Et à la suite de cette expérience, Elisha ben Abouya coupe à l'épouse, comme on dit. Ça veut dire qu'il abandonna l'obéissance à la loi, tandis que Métatron quand même était puni. Il perd sa place et il est puni justement pour ne pas s'être levé devant Elisha ben Abouya. Et lui est appelé Acher, comme vous savez, ça veut dire l'autre, autre, parce que son nouveau comportement l'avait fait prendre pour un autre, par une prostituée qui était étonnée qu'un si grand personnage venait lui rendre visite. Alors la suite de l'histoire pour Elisha ben Abouya se termine malgré tout bien, en dépit d'un premier jugement d'en haut qui l'excluait du Olam Haba, donc du monde qui vient. Il finit par être sauvé après sa mort grâce au fait qu'il ne s'était jamais arrêté d'étudier la Torah et même de l'enseigner à Rabbi Meir, qui était un des plus grands maîtres de la Mishnah. Bon, alors, Métatron est mentionné une troisième fois dans le Talmud comme associé à Kadosh Baruch Hu dans l'enseignement des petits-enfants sevrés. Bon, ça, j'ai négligé de vous rapporter le détail de l'histoire, d'ailleurs, qui est réduit à quelques lignes. Mais c'est surtout dans la Kabbale ancienne, donc la littérature des Echalot, que l'ange Métatron réapparaît. Et là, il occupe une place considérable dans cette littérature, sur notamment la Maaseh Merkabah, donc l'œuvre du char, en référence à la vision d'Ézéchiel, qui est la deuxième œuvre ésotérique, comme vous savez, mentionnée dans le Talmud, avec l'autre qui est Maaseh Bereshit, l'œuvre du commencement. Alors c'est ainsi que Métatron est omniprésent comme le personnage principal dans le livre hébreu d'Enoch, traduit par Charles Mopsik. Là, il est le chef de tous les anges, en grand nombre. Et il fait visiter le monde d'en haut à Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, qui est un des grands maîtres de la Mishnah, et on parle de lui d'ailleurs comme étant un grand prêtre dont on dit qu'il est entré dans le Saint des Saints pour brûler de l'encens, et il passa derrière le pargod, le rideau, et qu'à ce moment-là, Adonai, ou selon d'autres mentions, un de ses anges lui demanda de le bénir. Et Rabbi Ishmael, dans cette légende, en quelque sorte, est monté au ciel, et donc suivant le livre Enoch, le livre d'Enoch, quoi, et c'est là qu'il rencontre Métatron. Et Métatron lui fait visiter le monde d'en haut. Mais avant cela, Métatron, ou en parallèle, Métatron se présente lui-même à Rabbi Ishmael. Et il se présente comme ayant été autrefois sur terre le Hanoch, fils de Véred et père de Mathusalem, dont on parle dans la Genèse, et dont le Midrash dit qu'il n'est pas mort. Et pourquoi? Alors, à ce propos, d'ailleurs, une petite remarque vraiment technique. Le nom de Hanoch, en réalité, est mal traduit par Enoch, avec un H, dans le titre du livre, le livre hébreu d'Enoch. Et c'est une source de confusion avec un Enoch, sans H, qui est le fils de Seth, donc le petit-fils d'Adam, à propos duquel on dit que l'idolâtrie a commencé, etc., donc, mais qui n'a aucun rapport, en tout cas évident, l'un avec l'autre. Mais c'est une erreur qui a été retransmise de traduction en traduction, y compris dans différentes langues, où ce livre, normalement, qui est celui de Hanoch, eh bien, est indiqué comme livre d'Enoch. Bon. Alors, voilà que ce Hanoch fait partie, évidemment, des patriarches antédiluviens de la descendance d'Adam dans la Genèse, c'est-à-dire qui vivaient plusieurs centaines d'années, et dont on disait chaque fois l'âge de leur mort. Mais à propos de Hanoch, justement, le texte ne dit pas qu'il est mort, mais seulement qu'il marchait avec Elohim et Ve'enenu, et il a disparu, car Elohim l'a pris. Voilà. Donc à partir de cela, eh bien, on dit que c'est comme ça qu'il est monté au ciel et qu'il est devenu un ange immortel, c'est-à-dire le même Hanoch en question, sous le nom de Métatron. Alors on dit aussi que dans le livre hébreu d'Enoch, en question, il est appelé aussi prince de la face, parce qu'il est devenu non seulement un ange immortel, mais encore le chef de tous les anges, autre prince à la cour du roi des rois. Et il est traité comme tel, assis sur un trône semblable au trône de gloire. Il reçoit une couronne royale, le roi la pose sur sa tête, il le dénomme le petit Adonai, en présence de toute sa famille d'en haut. Comme il est dit, mon nom est en lui. À nouveau, Shmi Bekirbi. Et on reconnaît là, évidemment, aussi le danger de double pouvoir, toujours Shtereoshuyot, qui a fait tomber Elisha Ben Abouya à sa vue de Métatron assis, donc, sur le trône du roi. D'où peut-être une autre signification du mot Métatron, du grec ou du latin, d'ailleurs, en arrière du trône, Métatrodos, qui est aussi parfois donné à son nom. Alors, mais il se trouve que son nom, et c'est pour ça que je me suis un petit peu étendu là-dessus, il se trouve que son nom exprime aussi une autre ambiguïté. Il est présenté dans le livre hébreu d'Enoch avec une liste, lui aussi, de 70 noms. Il n'y a pas que Akadosh Baruch Hu, lui aussi a 70 noms. Mais dans cette liste, le premier de ces 70 noms, c'est Yahoel, donc, qui a un statut particulier. Et c'est à propos de lui qu'on fait aussi référence au nom de son maître qu'il a en lui, Yahoel. Mais d'ailleurs, c'est le même, puisque c'est un des noms de Métatron, mais c'est le premier. Alors, on l'identifie par l'intermédiaire des trois premières lettres du tétragramme, Yod He Vav, puisque Yahweh s'écrit comme ça, Yod He Vav, et puis suivi, qui est vocalisé d'ailleurs par Yahou ou Yaho, qu'on rencontre parfois dans la liturgie, qui est considéré d'ailleurs comme un diminutif de Yod He Vav He. Et puis Yahweh, donc Yahweh, suivi par la terminaison El, qui vient très souvent terminer les noms des anges. Et de même, il est aussi identifié avec le nom Yah, qui est un autre diminutif du tétragramme, réduit cette fois-ci à ses deux premières lettres. Alors, il y a toute une bibliographie kabbaliste de cette identification de Yahweh avec le tétragramme lui-même, par l'intermédiaire de ces diminutifs à trois et deux lettres, donc respectivement Yod-He-Vav et Yod-He, qui se trouve déjà d'ailleurs mentionné dans le livre de Gershom Scholem. Alors là, bon, c'est pas inintéressant de voir comment Scholem l'introduit. À propos, outre le livre de Enoch, il introduit Scholem un manuscrit des mystiques juifs en Allemagne du XIIe siècle, dénommé l'Apocalypse d'Abraham. Et dans ce livre, Yahweh est présenté comme le maître d'Abraham Avinu. Alors là, je cite Scholem, Yahweh est présenté comme le maître spirituel du patriarche, à qui il explique les mystères du monde, du trône et du jugement dernier, exactement comme le fait Métatron dans les traités des Chalot. Abraham est ici le prototype du novice qui est initié au mystère, de même qu'il l'est à la fin du Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah, le livre, un des premiers livres de Kabbale plus connus que les autres. Alors, je continue Scholem. Donc, dans l'Apocalypse, nous le voyons initié, c'est-à-dire Abraham, nous le voyons initié au mystère de la Merkaba, de même que dans le Sefer Yetzirah, il lui est accordé de pénétrer dans les mystères de la spéculation cosmogonique. Et Scholem conclut ça en disant plus généralement, il est évident que le nom Yahweh contienne le nom de Dieu. Alors on retrouve aussi à ce propos le passage du Talmud qu'on a vu, où il s'agissait de Métatron, rapporté et commenté dans une note que Scholem cite à ce propos, à propos de ce passage du Talmud où il y avait Ravi Yedit et Lubin qui discutaient, où nous retrouvons la réponse à l'hérétique, donc par de Ravi Yedit, à propos de « car mon nom est en lui », mais là, il s'agit cette fois de Yahweh lui-même, et pas Métatron, bien que ce soit le même. Donc je cite ici toujours Scholem, « Yahweh est appelé ainsi, car il fut le maître de notre ancêtre Abraham et lui a pris toute la Torah. Yahweh est l'ange qui appela Moïse notre maître pour qu'il montât au ciel. » Autrement dit, vous vous rappelez l'épisode de « il aurait dû dire « monte vers moi » et il a dit « monte vers Vadolin ». Donc Yahweh est l'ange qui appela notre maître pour qu'il montât au ciel. Et dans le traité Sanhédrin, il est écrit, il dit à Moïse, monte vers Dieu, El Adonai. Et il aurait dû dire vers moi. Bon, autrement dit, là, il cite le passage qu'on a vu. Mais Scholem, mais il dit, monte vers l'ange dont le nom est celui de son maître, El Adonai. Et là, ça c'est une remarque de Scholem, suivant laquelle El Adonai est l'anagramme, c'est-à-dire il a les mêmes lettres que Yahou. Voilà. Donc, où l'on voit dans ce texte que El Adonai est lu comme vers Yahou. Alors, de tout cela, on peut conjecturer que la vocalisation cachée, puis perdue du tétragramme Yod-He-Vav-He, eh bien, on peut conjecturer que, en réalité, cette vocalisation fut Yahvé qui utilise les trois premières lettres et les deux premières lettres qui sont respectivement Yod-He-Vav et Yod-He du tétragramme. Or, il existe actuellement des recherches archéologiques, épigraphiques et philologiques qui sont des associations de mythes et d'histoires qui correspondent dans la Bible à la période des rois d'Israël et des rois de Judée et qui remonte à des traces archéologiques d'environ le 8e et 9e siècle avant notre ère. Et curieusement, ces recherches arrivent à une conclusion semblable sur la probabilité de Yahvé comme vocalisation primitive du tétragramme à partir d'inscriptions en hébreu ancien et en araméen. Avant la période biblique, le nom Yahvé semble avoir été le nom d'une divinité de l'orage et de la montagne pour des tribus nomades d'Égypte et du désert, adoptées par des tribus cananéennes. Tandis que le nom El était celui d'un dieu cananéen et arabéen ancien, peut-être un dieu suprême dont on trouve une trace dans la Genèse à propos donc de ce Melchizedek, roi de Chalem et partenaire d'Abraham, Cohen de El Elyon. La plus ancienne découverte d'une inscription des consonnes du tétragramme Yod-Heh-Vav-Heh comme dieu d'Israël, évidemment sans voyelle, remonte au 9e siècle avant l'ère commune en Galilée, et il s'agit d'une stèle, celle de Mécha, qui était un roi de Moab et qui évoque une victoire militaire sur Israël. D'autres inscriptions dans les siècles suivants ont été découvertes sur des tessons de poterie et des parchemins où le tétragramme est parfois réduit aux trois premières lettres Yod-Heh-Vav. Pour une revue critique, pour ceux que ça intéresse, et ces comparaisons, mais ça qui sont intéressantes, ces comparaisons avec les textes bibliques, notamment dans le contexte polythéiste des rois et la purification par le roi Josias des cultes idolâtres, y compris dans le temple de Jérusalem, on peut consulter par exemple un livre d'André Lemaire qui s'appelle « Naissance du monothéisme, point de vue d'un historien » ou aussi le livre plus connu probablement de Thomas Romer sur l'invention de Dieu. Et enfin, de nouveaux écrits des pères de l'Église et la Bible de Jérusalem, probablement sous l'influence du grec de la Septante, traduisent aussi le tétragramme par Yahvé. Alors c'est à peu près au 3e siècle avant l'ère commune que fut prise la décision talmudique de cacher cette vocalisation primitive du tétragramme par Shimon HaTzadik d'après Maïmonide. La tradition pharisienne, donc la Torah orale, a institué l'étude approfondie de la sagesse, Chochma, du Chacham talmudique, comme la Sophia, la sagesse, des amis de la sagesse, les philosophes, où la Chochma l'emporte sur la prophétie, Chacham Adif Minavi, comme on dit. Cette même tradition talmudique qui affirme l'existence des Sifrei Torah, donc des secrets de la Torah, parmi lesquels Maaseh Breshit, l'œuvre du commencement, et Maaseh Merkava, œuvre du char. La Chochma Nistaret, comme on dit aussi, sagesse cachée, dont parlent par exemple Ibn Ezra et Nahmanide, seulement par allusion, parce que c'était avant l'explosion des écrits kabbalistes, probablement en réaction contre Maïmonide, d'après Moshe Hidden. Alors, par exemple, Ibn Ezra et Nahmanide, de temps en temps, lancent une allusion en disant, justement, après avoir donné une explication au niveau de tout le monde, en quelque sorte, et puis ils lancent quelques mots pour introduire à une autre explication, mais ils s'interrompent aussitôt en disant « Amaskil Yavin ». L'intelligent comprendra. Ça veut dire celui qui sait déjà pourra comprendre. Or, on a voulu voir dans cette histoire longue et compliquée une opposition schématique entre rationalisme et mysticisme, ésotérique, mais c'est évidemment une erreur. À titre d'indication, il faut voir aussi qu'il existe un ésotérisme de Maïmonide. Et je vous recommande, il y a un très bon livre de Moshe Hidel là-dessus qui s'appelle « Maïmonide et la mystique juive » dans lequel il montre comment en réalité il s'agissait de deux approches différentes de la Kabbale, aussi bien chez Maïmonide et chez le kabbaliste. Et ces deux approches-là, à la limite, on peut les qualifier de façon extrêmement schématique comme d'une inspiration aristotélicienne chez Maïmonide et plutôt néoplatonicienne chez les autres. Or, les rabbins du Talmud ont jugé utile d'ajouter au tétragramme, ainsi qu'aux autres noms divins du texte biblique, plusieurs expressions qui ne sont pas des noms proprement dits. Par exemple, on peut citer Akadosh Baruch Hu, donc on traduit mal par le Saint béni soit-il, qui vaudrait bien peut-être traduire à peu près par le séparé qui est béni, en suivant d'ailleurs une indication des Rav Chaim de Volodjin dans le Nefesh HaChaim, par exemple. Autre expression, Amakom, le lieu, ou bien Ribono Shalolam, le maître du monde, auquel les kabbalistes ont ajouté Ensof, l'infini. Alors on doit se poser la question de pourquoi. Pourquoi ont-ils jugé d'ajouter tous ces noms ? Donc, quelle nécessité, sinon de leur utilité ? Alors qu'elles expriment plutôt des qualités et semblent occuper la place du tétragramme ou d'autres noms du texte de la Torah écrite dans leur transposition à l'usage de discours plus théologiques et philosophiques de la Torah orale et qui se veulent souvent strictement monothéistes. Alors dans ce contexte, revenons à l'énigme de la vocalisation primitive du tétragramme, cachée par la Torah orale, mais pas complètement comme on l'a vu, eh bien peut-être est-il plus raisonnable de se rallier à l'opinion majoritaire qui accepte la vocalisation en Yahvé comme la plus probable. Mais alors, il faut savoir que le caractère polythéiste de l'arrière-fond de la Torah écrite, sur lequel Moïse impose une monolâtrie, un culte exclusif dans l'alliance du Dieu d'Israël sur sa terre, avec son Dieu révélé dans le buisson au Sinaï, eh bien, il se trouve que le nom en question semble avoir sa source, si on considère que c'est Yahvé, dans un dieu du panthéon mésopotamien. Et ceci explique peut-être, et bon, ça c'est une hypothèse que je vous soumets, ceci explique peut-être que cette adoption n'est pas empêchée, qu'il soit, cette adoption donc d'un dieu étranger, d'un dieu devenu le dieu d'Israël, peut-être que cette adoption-là n'a pas empêché qu'il soit l'objet, y compris en Israël, d'un usage idolâtre avec son Asherah, vous savez, une idole femelle qui existait jusque dans le premier temple de Jérusalem, accompagnée par les nombreux autels de sacrifices effectués en dehors du Beth Amikdash, en d'autres lieux que raconte justement le livre des rois, avec une transgression évidente de la loi de monolâtrie impliquée par l'alliance Israël en son Dieu et son Dieu, jusqu'au retour à la loi de Moïse oubliée et sa redécouverte avec la destruction des idoles par le roi Josias qui s'en est suivie et décrite dans le livre des rois. Alors on peut suggérer l'hypothèse que la décision de cacher ce nom-là, si on admet que c'était au départ le nom d'une idole cananéenne, eh bien on peut supérer l'hypothèse que la décision de le cacher était justifiée par le souci d'écarter du judaïsme ce souvenir de son idolâtrie lors du retour de Babylone et la construction du deuxième temple. La construction du judaïsme talmudique par la Torah orale a suivi, avec le souci de retrouver ou de créer la monolâtrie de la loi de Moïse, transformée en monothéisme en cours du temps. Alors je crois que je vais m'arrêter ici en vous citant simplement, mais sans avoir le temps d'en parler, un kabbaliste très curieux qui est Abraham Aboulafia et son livre Asechel qui suggère lui une vocalisation particulière du tétragramme primitif qu'on ne trouve alors nulle part. Je crois que c'est le seul ou peut-être pas, enfin le livre a été extrêmement bien traduit par Michael Seban avec aussi une annotation très intéressante. Il semblerait que certains partageaient son opinion, mais son opinion était très, très curieuse mais intéressante. Lui propose que la vocalisation primitive, les voyelles qui étaient à l'origine, eh bien, il propose que c'est donc le nom qui était à l'origine, ce qu'il appelle et qui était caché, mais tellement bien caché qu'on ne le trouve nulle part, sauf dans son enseignement, et où il dit que justement il fallait que ce nom reste caché. Pourquoi ? Eh bien, alors d'abord, ce nom, c'est quoi ? C'est tel qu'il le présente, c'est Aleph, He, Vav, Yud. En réalité, et c'est ce qu'il explique d'ailleurs, il s'agit là des consonnes qui servent de véhicule pour les voyelles en hébreu. C'est Aleph, He, Vav, Yud. Et c'est ça qu'il présente, lui, Aboulafia, comme étant le nom caché, le vrai nom, en quelque sorte, la cause des causes, comme il dit, en se fondant sur un concept aristotélicien pour le coup, parce que c'était un bon élève de Maïmonide, Port-sur-le-Marché, Aboulafia, et alors, et bien, donc ce nom-là, d'après lui, eh bien, devait rester complètement caché parce qu'il était réservé aux intelligents. Et alors lui, c'est encore mieux, plus que Maskelyevin, là, il le dit. Et après, il explique, évidemment, dans son livre, plus en détail, comment ce nom-là est utilisé, ainsi que le tétragramme, d'ailleurs, par tout un tas de combinaisons diverses des différentes lettres qui ressemblent d'une certaine façon à des exercices d'intelligence artificielle, mais avec quand même une différence qui serait peut-être intéressante, qu'on pourrait éventuellement discuter. Voilà, je vous remercie.
Eva.